Bon après-midi tout le monde. Dernière conférence, avant-dernière conférence en fait de l'après-midi parce que après cette conférence qui traite du groupe avec Christine Mallette et Yves Mairès, il y aura une conférence de clôture. Donc c'est vraiment une conférence de clôture qui sera donnée par Lynn Girard. J'ai des petites infos techniques à vous donner. Bon, comme je vais vous le rappeler, ceux qui doivent partir tôt, ben c'est bien que vous mettiez un peu plus à l'arrière, comme ça va moins déranger tout le monde, si vous avez à partir pendant les exposés. Une autre chose, ceux ou celles qui n'ont pas reçu encore les documents, bien, à la pause, Marie-Pascale Martorel, qui est ici, sera à la table tout de suite à la sortie, et vous pourrez lui donner votre nom, et elle va vous transmettre les documents. Une autre chose que j'allais dire... le CIG offre en fait que l'enregistrement sonore va pouvoir se retrouver sur leur site. En fait, on va pouvoir y avoir accès. Oui, cet automne. Évidemment, pas demain matin. Donc, ça va être super intéressant. On va pouvoir avoir accès à tout ça. Donc, on vous souhaite une bonne après-midi. Ça commence avec Christine et Yves qui va la présenter.
Eh bien, j'ai le plaisir de vous présenter donc Christine Mallette. Alors, notre contact a démarré de deux façons. La première fois, j'ai reçu un mail et elle m'écrivait, le titre du mail, c'était « Dans quelle aventure nous sommes-nous embarqués ?» Et là, j'ai commencé à m'angoisser. Jusqu'alors, tout allait bien. Notre deuxième contact, j'ai une très mauvaise habitude, c'est que... ou bonne, je ne sais pas, pour ma santé, sans doute bonne. Mais après mon petit repas, je fais ma petite sieste. Mais ce jour-là, la sieste a duré. Et j'ai oublié le rendez-vous avec Christine que j'avais sur Skype. Ce qui est pour moi une reproduction. Généralement, ma première rencontre avec les femmes, je suis pas au rendez-vous. Je puis vous dire qu'elle a une solide estime d'elle-même, je crois, et une solide empathie. Parce qu'elle a très bien accueilli ça. On a reporté le rendez-vous, parce que je m'étais pas lâché de 5 minutes. Hein, elle avait appelé 2-3 fois déjà chez moi. Et puis ensuite, on a eu plusieurs rendez-vous, et puis je pense que ça s'est bien passé. Et néanmoins, j'étais quand même un peu envieux, parce qu'à chaque fois, elle me disait, je disais, quand est-ce qu'on se reprend un rendez-vous? Quand tu veux. Et à chaque fois, elle me disait, je suis chez moi, je suis bien, je suis dans ma nature. Et j'ai prévu ce jour après de faire du vélo. Néanmoins, elle travaille. Elle habite donc à Pointe-de-Cascade, elle est psychologue clinicienne, elle a 28 ans de pratique en accompagnement individuel de couple et plus récemment de groupe. Plus récemment. Ouais. Et elle est donc diplômée du troisième cycle du CIG depuis 2012 et elle s'est lancée donc dans l'aventure du groupe récemment. Et moi j'ai déjà écouté sa présentation et je puis vous dire que c'est très intéressant. Alors j'espère que vous allez en profiter. Voilà. Et que, oui, c'est ça. Oui, j'ai oublié de dire aussi qu'un de tes thèmes privilégiés, c'était l'intimité. Ouais. Voilà. À toi, Christine.
Merci. Bonjour. Donc, je suis ici pour vous démontrer. Plus proche. Je suis ici pour vous démontrer comment le travail en groupe combiné à la thérapie individuelle favorise le passage d'un schéma conservateur où il y a peu d'intimité à un schéma créateur où il y a davantage d'intimité. Pour faire ça, je vais utiliser les outils de la PGRO, entre autres les micro-éléments du cycle thérapeutique reproduction, reconnaissance, réparation et quelques éléments des neurosciences, la régulation affective et la création de nouveaux réseaux neuronaux. Je vais vous dire quelques mots sur le contexte dans lequel j'ai fait mes observations. C'est un atelier que j'ai créé qui était un atelier de 5 jours et parti sur 5 mois, une journée d'atelier environ par mois. Et j'ai structuré les ateliers par des exercices et par des partages sur des expériences relationnelles. Le rôle que je me suis attribué, ça a été surtout de contenir et de réguler les émotions et de favoriser des prises de conscience sur sa façon d'être en relation. Les participants dans le groupe étaient au nombre de 8 et c'était tous des clients en thérapie individuelle avec moi. Donc, j'ai centré mes observations sur le parcours de 2 des participants parce qu'il y a eu beaucoup d'interactions entre eux. Donc, l'itinéraire que je vais suivre, je vais d'abord vous les présenter et ensuite je vais décrire et je vais analyser les séquences qui les ont impliqués tous les deux. Et je vais vous parler du travail individuel qui s'est fait entre ces séquences. Je vais aussi vous parler de quelques expériences qu'ils ont faites dans le groupe avec d'autres participants qui ont contribué à intégrer un schéma créateur. Donc, à la fin, je vais résumer en présentant les 2 participants à nouveau après la série des 5 jours. Et je vais vous dire un petit mot sur le travail de groupe en général. Donc, Pierre est un homme de 48 ans. C'est un professionnel à son compte qui est reconnu dans son domaine. Il est très talentueux. Il est en relation avec la même conjointe depuis l'adolescence et ils ont 2 enfants de 12 et 14 ans. Le dilemme de contact de Pierre, c'est que pour être en lien, il éteint ses besoins et il se met au service de l'autre. Au moment où débutent les ateliers, ça fait 3 ans qu'il vit une crise dans son couple. Sa conjointe est presque toujours en colère. Et lui, à cause de son schéma conservateur, il multiplie toutes sortes de stratagèmes pour atténuer cette colère en ne la contrariant pas, bref, etc. Et puis, son motif de consultation au départ, c'est un malaise général dans sa vie. Il était malheureux. Je le rencontre depuis 6 ans à toutes les semaines. Judith, c'est une femme de 40 ans sans enfant, célibataire, qui vit avec ses parents. Elle est fonctionnaire et elle exerce sa profession auprès d'enfants de 5 à 10 ans. Le dilemme de contact de Judith, c'est qu'elle, pour être en lien, elle ignore, elle rejette ou elle fait disparaître les différences. Au moment où débutent les ateliers, Judith est coincée dans un conflit avec le mari d'une de ses bonnes amies parce qu'il l'a blessée tout simplement en démontrant une attitude différente de la sienne. Et Judith rejette toutes les tentatives qu'il fait pour tenter de dénouer le malentendu. Le motif de consultation de Judith, au début, c'était sa relation avec les hommes, et puis il s'est modifié au cours des 8 ans que je la vois. Au début, je la voyais de façon sporadique. Depuis 2 ans, je la vois toutes les semaines, et son motif s'est orienté vers sa capacité de créer des liens. Donc, la première interaction entre eux va donner un exemple de chacun de leurs schémas conservateurs. Ça se passe au restaurant. Le premier midi, le samedi, ils sont allés manger presque tous ensemble et chacun leur tour, ils parlaient de ce qu'ils faisaient dans la vie. Quand est venu le tour de Pierre de nommer sa profession, Judith l'a rapidement interrompu pour lui dire que les professionnels de sa catégorie faisaient des erreurs, s'y prenaient de la mauvaise façon. Elle lui suggérait même comment il devrait travailler. Et Pierre voyait bien que son attitude était harcelante, mais il répondait consciencieusement à ses questions. Et ses questions visaient juste à le prendre en défaut. Donc, on peut voir, je l'ai fait comme ça, avec les différentes fonctions de la personnalité. Donc, Judith, elle, puisque accueillir l'autre, c'est disparaître, elle l'envahit. Elle se voit comme celle qui a raison. La représentation de l'autre, c'est qu'il doit penser comme elle. Et ce qui émerge, c'est de la colère qu'elle se sert, dont elle se sert pour écraser l'autre, et elle a peur de ne pas être entendue. Chez Pierre, son schéma conservateur se décline ainsi. Puisqu'il met ses besoins de côté, il s'adapte à l'autre, il répond consciencieusement à ses questions. Il se voit comme serviable et responsable. Sa représentation de l'autre, c'est quelqu'un qui a besoin de son aide et notamment, dans ce cas-ci, de ses explications. Ce qui émerge chez Pierre, c'est son élan vers l'autre et son irritation, mais à cause de son schéma conservateur, il ignore son irritation. Oui, je l'ai mis sous forme de schéma, là. Ça répète tout simplement ce que j'ai dit sous forme de schéma. Donc, la séance individuelle suite à cette interaction-là, Pierre me rapporte son irritation en séance individuelle. Moi, je tente de lui démontrer que son irritation est légitime. Et puis, je lui suggère de profiter des laboratoires que sont les ateliers pour en parler avec Judith, ce qu'il évite de faire habituellement. Et puis, il me dit, non, j'ai juste 4 autres samedis à l'endurer, puis après, je ne la verrai plus jamais. Ça fait que c'est une belle occasion que j'ai pour reconnaître son schéma conservateur et pour lui démontrer qu'il participe à ce qu'il déplore. Donc, à l'atelier suivant, l'atelier de groupe suivant, le premier exercice que je propose en dyade, Pierre s'empresse de choisir Judith pour former une dyade avec lui. Il lui en dit très peu, en fait. Je ne suis pas témoin de leur échange lors de la dyade, mais en séance individuelle, par la suite, j'apprends qu'il lui a juste dit qu'il avait des réticences envers elle au début parce qu'elle lui faisait penser à sa sœur aînée. Mais ce qu'il omet de dire, c'est que sa sœur aînée lui tape sur les nerfs royalement. Donc, il en dit peu, il la protège, mais il y a quand même une ouverture chez lui. Et pour Judith, d'être choisie, c'est quelque chose d'important. Donc, je vous ai décliné encore dans les différentes fonctions de la personnalité le schéma créateur qui s'amorce avec cette interaction-là. Donc, je vais commencer avec Judith. Donc, elle est sensibilisée à un modèle de comportement bien différent du sien. D'ailleurs, elle écoute Pierre lorsqu'il lui parle. Elle se voit comme pouvant être choisie malgré ses différences. Elle voit l'autre à ce moment-là qui ne pense pas comme elle, mais qui peut quand même venir vers elle. Et ce qui émerge, c'est de la joie et de l'excitation dans un rapport où il y a eu de l'opposition. Pour Pierre, le schéma créateur qui s'amorce, au niveau du le fait que Judith l'écoute, ça lui donne confiance et ça lui donne envie de continuer de s'ouvrir. À ce moment-là, il a une représentation de l'autre, de lui comme pouvant s'exprimer et de l'autre comme pouvant être là pour lui. Et ce qui émerge, c'est le plaisir d'être accueilli. Donc, pour comprendre la prochaine interaction, je dois expliquer que attendez. Ouais. C'est Ah oui, c'est ça. Donc, il faut que je vous explique avant de vous parler de l'interaction qu'en plénière, Pierre a partagé avec le groupe que lui, il ne laisserait pas sa femme partir seule en voyage au cas où il lui arriverait quelque chose et qu'il ne soit pas là pour lui prêter une assistance immédiate. Donc, Judith a entendu ça. Et là, je vous parle de l'interaction. Ils se croisent dans la salle d'attente. Ils ont leur rendez-vous individuel l'un après l'autre. Pierre dit à Judith qu'il part bientôt pour un voyage de pêche et elle lui demande s'il part avec sa femme. Et quand il lui répond non, elle lui dit « Ah, comme ça, tu vas lui faire vivre ce que toi, tu peux pas tolérer. » Judith m'a souvent rapporté en thérapie individuelle des interactions comme celle-là, où elle rive son clou à son interlocuteur avec une espèce de plaisir et de fierté d'avoir eu raison. Mais cette fois-ci, elle est perturbée, vraiment. Elle est vraiment troublée d'avoir dit ça à Pierre. C'est juste après qu'elle s'en rend compte. Et... bon, j'en oublie certainement des bouts, là, mais bon, on va y aller comme ça quand même. OK. Donc, je pense que j'étais une diapo en retard, là. Je vous ai parlé de l'interaction dans la salle d'attente. Bon, en tout cas, sa capacité de mentalité s'est accrue, on dirait. Et puis, il y a un changement au niveau de la fonction « je », parce qu'après cette rencontre avec Pierre dans la salle d'attente, elle va le voir pour s'excuser d'avoir manqué de sensibilité. Donc, l'approche... Oui, ce que je voulais dire, en fait, je ne sais pas si je peux revenir en arrière... Ce qui m'est apparu intéressant dans l'interaction qu'ils ont eue, bon, en tout cas, j'y reviendrai plus tard. Donc, lors d'un atelier suivant, Pierre, il veut parler de son contact avec Judith. Il veut en dire du bien parce que il est fier et il est heureux d'avoir été capable de s'ouvrir avec elle et d'avoir constaté que ça l'amenait dans beaucoup de vitalité. Mais il commence son partage en disant « Au début, elle me tapait sur les nerfs. » Et c'est comme il se rend compte en s'entendant lui-même, puis peut-être en voyant le visage de Judith, que ses paroles ont le potentiel d'être blessantes. Donc... moi, à ce moment-là, je vois bien que Pierre est troublé d'avoir dit ça. Et puis, je vois que Judith est extrêmement troublée de l'avoir entendu. Mais je fais le choix de ne pas intervenir dans le groupe parce que je ne suis pas assez sûre que le groupe va pouvoir me soutenir à réguler leurs émotions. J'ai peur de ne pas être capable de prendre soin des deux en même temps. Ça fait que je me dis que je vais régler ça en thérapie individuelle. Et ce qui ne manque pas d'arriver, quand je le vois, Pierre, après cette réunion-là, il est complètement revenu dans son schéma conservateur. Il remet les ateliers en question complètement. Il veut même pas venir au dernier atelier. Sa représentation de lui est comme complètement inappropriée. Il voit l'autre comme pouvant pas tolérer d'être affecté négativement par lui et ce qui émerge, c'est la culpabilité. Donc, ce que je fais à ce moment-là, c'est que je régule ses émotions, puis je l'aide à comprendre que la colère qu'a pu susciter l'envahissement de Judith lors du premier dîner pouvait très bien expliquer sa maladresse relationnelle. Et cette intégration, hein, hémisphère droit, hémisphère gauche, semble réparatrice pour lui. Parce que là, on dirait qu'il est plus capable d'accueillir sa colère. Donc, à l'atelier suivant, aussitôt qu'il a l'occasion, il partage avec le groupe à quel point il a été perturbé d'avoir eu des paroles qui ont pu blesser Judith. Donc, on voit ici qu'il est revenu dans un schéma créateur. Hein? Il choisit de continuer de s'ouvrir. Il a une représentation de lui à nouveau comme capable de s'exprimer. Et même cette fois-ci, il se présente comme quelqu'un de sensible et faillible. Et il a une représentation de l'autre à nouveau comme capable de le recevoir. Et ce qui émerge, c'est du plaisir, du bonheur dans cette intimité. Et pour Judith aussi, c'est significatif, cette rencontre-là, parce que je n'avais pas bien réussi à la réguler. Elle ne prend pas conscience à quel point elle peut être agressante quand elle envahit. Donc, mais d'entendre que Pierre s'était vraiment soucié d'elle, ça la régule, ça la touche et ça la régule. Elle se souvient de comment il lui a pardonné son manque de sensibilité dans la salle d'attente et elle se dit, bon, moi aussi, je peux bien lui pardonner d'avoir été maladroit. Donc, elle aussi, on peut la voir à nouveau dans un schéma créateur où elle choisit de pardonner, où elle se voit comme pouvant susciter la considération d'autrui, même si elle est imparfaite. Elle voit que l'autre, à nouveau, peut ne pas être d'accord avec elle et venir vers elle malgré tout. Et puis, elle a encore la possibilité de ressentir de la joie dans un contact, malgré qu'il y a eu un bris dans l'harmonie. Là, je vais vous parler un petit peu des interactions, parce que ceci met fin aux interactions entre eux. Je vais vous parler des interactions qu'ils ont eues dans le groupe, avec d'autres membres qui ont contribué à intégrer un schéma créateur. Pour Pierre, ça a été surtout la possibilité d'exprimer des émotions confrontantes, ce qu'il évite de faire habituellement. Il a été bien accueilli lorsqu'il s'est exprimé, d'abord par les autres participants qui partageaient ses perceptions, et aussi les deux personnes qu'il a confrontées à un atelier subséquent. Ils ont partagé d'abord avec le groupe ce qu'ils avaient fait de positif avec les commentaires de Pierre, et ils en ont profité pour le remercier d'avoir été authentique avec eux. Et il s'est aussi fait faire des commentaires par les autres participants. Plusieurs d'entre eux, de différentes façons, lui ont signifié qu'il préférait le voir cesser de se mettre au service des autres. Pierre, c'est quelqu'un qui se met toujours en mode de solution de problème. Donc, c'est des expériences qui ont dû contribuer à un schéma créateur. Pour Judith, ça a été une fois, elle a été à l'origine d'une identification projective que j'ai travaillée dans le groupe parce que sa partenaire de diade, c'était suite à un exercice en diade, et sa partenaire de diade a ramené dans le groupe son expérience avec Judith. Donc, pour expliquer un petit peu ce qu'elle ramenait dans le groupe et pour prendre soin d'elle aussi, j'ai travaillé l'identification projective. Et ça a permis à Judith de passer d'un état où elle se sentait complètement inadéquate à un état régulé face à l'acceptation générale des participants. Oui, parce que les discussions qui émanaient de ce travail étaient positives. Donc, en conclusion, je vais vous montrer un peu leur schéma à la fin des ateliers, puis un petit peu des expériences dans leur champ 3 qui ont émané de leur travail en groupe. Judith s'était donné comme défi d'avoir une conversation intime avec une amie. Il y avait un froid qui existait entre elles depuis plusieurs années, et elle me rapportait en thérapie individuelle qu'elle avait enfin été capable d'entendre la colère de son amie. Et aussi, un autre petit exemple, c'est que c'est assez exceptionnel pour elle d'avoir pardonné et de s'être remise très facilement d'avoir été heurtée. Je vous ai parlé de quand elle a été heurtée par Pierre. C'est arrivé avec quelqu'un d'autre aussi et elle est même devenue amie avec Pierre. Dans le cas de Pierre, au niveau de... Je vous ai dit quand on a commencé que ça fait 3 ans qu'il est en crise dans son couple. Et puis, pendant les ateliers, il a dit pour la première fois à sa conjointe qu'il n'était pas heureux avec elle. Ça s'est passé sur plusieurs séquences. Et avant de partir pour son voyage de pêche, il lui a suggéré qu'ils réfléchissent chacun de leur côté à leur avenir. Et sa conjointe lui a dit « Non, ça me fait trop de peine de penser à ça, je préfère pas y penser. » Puis ça aurait été une occasion rêvée pour Pierre de reculer en temps normal, mais il a insisté en lui disant qu'ils allaient bien devoir finir par le regarder. Donc, ouais, c'est ça, un jeu plus authentique, etc. j'ai fait ressortir des thèmes généraux que j'ai observés dans le travail de groupe. Donc, il y a un Michel là, qui va faire un truc sur le groupe bientôt. Il va pouvoir s'inspirer de ça. Je pense que chacun de ces thèmes mériterait une réflexion et de l'observation là, dans un travail de groupe futur. Les ateliers ont suscité des commentaires positifs chez tous les participants et ça a été très fertile pour leur travail en thérapie individuelle. Et puis, je veux vous dire que j'ai eu l'occasion d'animer un deuxième groupe après celui-ci avant de venir vous en parler. Et ce que je veux vous dire, c'est qu'on peut acquérir très rapidement beaucoup d'assurance comme animatrice. Et ça permet de profiter des occasions innombrables de faire du travail thérapeutique. Donc, je ne sais pas si je vous ai donné le goût de voir vos clients en groupe, mais si oui, je suis à peu près certaine que, comme moi, vous allez d'abord y prendre du plaisir et avoir une motivation beaucoup plus grande à faire notre travail de clinicien. C'est tout. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais vous présenter Yves Mérès. Yves, c'est quelqu'un qui a une carrière impressionnante. Il est clinicien, il est superviseur, il est formateur. Il a même enseigné récemment en Russie. Il a été président de l'Association française de Gestalt. Il a fondé l'école avec des collègues qui pourvoient 3 cycles d'études en psychothérapie. J'ai eu beaucoup de plaisir à côtoyer Yves lors de la préparation de ces journées. Le travail qu'il fait avec le groupe me passionne et j'ai une grande admiration pour lui. Allez, Yves.
Alors, il faut que je trouve le truc maintenant. c'est lequel ? Je ne sais pas si c'est celui-là. Mais... Vas-y, clique dessus, parce que moi, je ne suis pas du tout sur Mac. Non, c'est pas ça. Non. On revient en arrière, là. Hein, c'est Marie-Pascal. Marie-Pascal et François, vous revenez. Ben, écoute, on l'a mis là, mais... Comme ils ne sont pas les titres, je ne sais pas. Oui, c'est ça, merci. Alors moi, pour défiler, je fais ça, hein, ici. Ok, très bien.
Bien, voilà.
Alors, d'abord, je vais vous présenter le contexte. C'est pas un travail, comment dire. Ça fait en 2013, j'ai été au comité scientifique et organisateur d'un colloque sur le groupe qui a regroupé donc la SFG et le CEGT. Il y a eu beaucoup d'interventions et tout ça. Et à l'occasion de ce travail-là, j'ai commencé une première présentation. Et en fait, c'est pas un travail abouti. Je suis vraiment dans quelque chose où je cherche une forme nouvelle de travail en groupe qui tienne compte à la fois de ce que j'avais appris sur le groupe. Parce que je travaille avec le groupe depuis longtemps, avec des groupes depuis longtemps, et plutôt les enjeux, je dirais, de dynamique de groupe, psychosociologique, la vie affective des groupes, etc. Et puis la PGRO. Et si je, pour vous montrer un peu, si vous voulez, j'essaye de passer d'un modèle où je faisais de la psychothérapie individuelle en groupe, donc une séance individuelle avec un travail, je dirais, de feedback ensuite, et puis de temps en temps un travail de régulation du groupe. J'essaye de passer progressivement à un travail où j'essaye de faire participer le groupe beaucoup plus régulièrement, et y compris en cours de séance avec un client. Donc en fait, c'est un travail un peu d'équilibriste, parfois c'est un peu sportif, mais je travaille là-dessus parce que je vais vous raconter à un moment donné, vous parler d'une séquence qui a été extrêmement déséquilibrante pour moi, et où j'ai eu l'expérience que c'était le groupe qui rééquilibrait. Donc du coup, j'ai utilisé cette expérience pour essayer de modifier ma façon de travailler. Alors, mes intentions... c'est ça ici ? Ouais, voilà. Alors, les intentions, donc, c'est commencer à regarder comment la formation PGRO a modifié ma pratique de groupe, comment je suis passé d'une pratique de groupe à une pratique avec le groupe. Le vocable « avec » est important. C'est-à-dire, j'essaye maintenant de faire participer le groupe le plus souvent possible. Et je voudrais donc discuter quelques modalités d'intervention avec le groupe. Et notamment, j'ai un groupe de 7 personnes, où des personnes fréquentent ce groupe pendant à peu près 5, 6, 7 ans. Et ce ne sont pas des personnes que j'ai en thérapie individuelle. En général, ce sont des personnes qui viennent faire du groupe après avoir fait une thérapie individuelle déjà assez conséquente. Donc la pratique que j'ai avec eux, ce n'est qu'une pratique en groupe. Je vais démarrer pour rappeler quelques présupposés concernant le groupe. Ensuite, définir le concept de fond groupal. Enfin, envisager comment je vois au sein du groupe le concept de reproduction en intégrant cette notion de fond groupal. Et essayer de vous dire comment j'essaye d'optimiser le rôle du groupe dans le travail de reconnaissance et de réparation. Et enfin, regarder du coup comment j'ai modifié mon mode d'intervention comme thérapeute en groupe. Alors... 2, 6, c'est un peu trop. Oui, c'est ça. Alors, quelques présupposés. Donc, je repasse par Kurt Lewin pour dire simplement qu'un groupe est une totalité qui possède sa propre dynamique, avec, selon Lewin, 5 éléments, des buts, des normes, les rôles des uns et des autres, des étapes de développement, et il y a différents niveaux du système au sein d'un groupe. Donc, au fond, chaque groupe est un système plus ou moins ouvert et fermé. Et tous les systèmes ont tendance à s'auto-réguler. Individus, familles, groupes, ou à se fixer dans des reproductions. Donc pour moi, si vous voulez, c'est déjà amené une première hypothèse, c'est qu'il y a des reproductions qui concernent le groupe et pas forcément uniquement les individus dans le groupe. Et les personnes, c'est ce que Lewin dit et je le pense aussi, les personnes ne peuvent être pleinement comprises que si elles sont envisagées dans une perspective interactive au sein d'un champ global de force. Donc, on a le concept d'interdépendance, donc chaque changement individuel va affecter l'ensemble du groupe, et chaque changement du groupe, l'ambiance affective du groupe, qui est une totalité différente donc que la somme des parties, va aussi affecter chaque individu. Ça, ce sont des hypothèses de base, et donc j'ai mis en gras l'hypothèse que je trouve pertinente pour moi, on ne peut pas comprendre ce qui se passe dans un groupe en connaissant uniquement ce qui se passe dans la vie psychologique individuelle de chaque membre. Et enfin, dernier principe, le principe d'équifinalité, c'est-à-dire qu'il y a plus de solutions possibles si on stimule un groupe dans certaines situations. C'est-à-dire que le groupe peut participer à faire émerger des situations supplémentaires. Bon, Hélène Kepner, je pense que vous connaissez, elle redit à peu près les mêmes choses, et elle insiste sur le fait qu'au sein d'un groupe, on peut participer à 3 niveaux, on peut travailler des interactions individuelles, des interactions entre 2 personnes, et on peut aussi à un moment donné travailler avec le groupe dans son ensemble. Donc il y a plusieurs niveaux d'intervention au sein d'un groupe, c'est important de le rappeler. parce que selon les moments, on va pouvoir travailler à tel ou tel ou tel niveau dans une dynamique de groupe qui se déroule sur un long terme. Parce que moi, je vous dis, j'ai des personnes pendant pas mal de temps. Alors, le concept de fond groupal. Alors là, j'ai lu, quand j'avais préparé pour le colloque là, de 2013, j'ai lu un auteur qui s'appelle Claudio Neri, qui est très intéressant. C'est un psychanalyste de groupe, en fait, qui travaille sur le groupe depuis des années. Et il insiste beaucoup sur la notion, je vais tout de suite à sa citation, sur la notion de champ. Et il dit, à un moment donné, quand on travaille avec un groupe, l'essentiel devient la description du champ interposé entre les individus et non pas les individus en soi uniquement et leurs pulsions. Pour le psychothérapeute de groupe, il dit « Le champ est maintenant tout aussi réel que la chaise sur laquelle il est assis. » Pour moi, concrètement, si j'essaie de concrétiser cette idée, ça veut dire que lorsque je travaille avec une personne, idéalement, mais je n'y parviens bien sûr pas toujours, je devrais toujours être attentif au mouvement du fond groupal et à l'affectivité circulante au sein du groupe. Et vous allez voir dans le cas, que dans la situation que je vais vous parler, que pour avoir négligé ça, j'ai eu quelques déboires. Alors, je viens donc à la PGRO. Donc, en PGRO, on peut dire que ce qui fait lien, ce sont les affects positifs et négatifs, leur circulation, leur régulation et les buts au sein du groupe. C'est ce qui va faire lien au sein d'un groupe. Là, on pourrait dire, c'est une idée qu'on retrouve aussi chez un auteur comme Max Pagès. Et le fond groupal, on peut penser que le fond groupal va contenir plusieurs besoins et enjeux développementaux inachevés, des enjeux d'attachement, des enjeux d'estime de soi, des enjeux éros, éthos. Et le fond groupal, dans sa globalité, va pouvoir aussi être activateur de situations inachevées qui ne surgiraient pas forcément en situation strictement individuelle. Donc en fait, je regarde le truc des deux côtés. D'un côté, les individus nourrissent le fond groupal, de l'autre côté, le fond groupal, qui est une totalité différenciée, peut aussi susciter des situations inachevées. Donc, au fond, ces enjeux présents qui vont venir colorer l'ambiance du groupe avec les corps en présence, le sentir, les formes de contact, les formes d'accordage positif ou négatif, les interactions affectives, explicites ou implicites. Donc, les SI mal assimilés issus d'un dilemme de contact chercheront à réémerger à un moment donné au sein du groupe. Alors, je me suis dit... à un moment donné, existe-t-il des microchamps introjectés d'origine groupale ? C'est-à-dire que certains microchamps peuvent être pour moi liés à des ambiances groupales, notamment par rapport à des reproductions familiales ou sociales. Souvent, quand on parle par exemple des enjeux d'attachement, on va parler des enjeux précoces, etc. Et dans les enjeux un peu secondaires, l'attachement ne se termine pas dans les premières étapes. Parfois, quand maman ou papa intervient avec un enfant d'une façon dysrégulante, etc., il y a papa ou maman qui est là, il y a d'autres frères et sœurs qui sont là et qui aussi jouent ou ne jouent pas un rôle, mais enfin qui sont là. Donc, du coup, je pense qu'il peut y avoir des situations inachevées profondes, telles que des violences répétitives vécues en groupe, des situations d'humiliation, des situations de honte, des messages et interdits implicites, par exemple, des non-dits, des secrets de famille, dans une situation groupale et qui vont réémerger plus facilement dans une situation groupale que dans une thérapie inter-individuelle. Voilà l'hypothèse. En groupe thérapeutique, donc, je pense que le groupe thérapeutique est un espace potentiel de reproduction, donc de relations vécues au sein d'un système familial ou social, que ces micro-champs dont je fais l'hypothèse vont donc faire pression à la frontière contact dans les relations inter-individuelles et avec le groupe. Et que ces affects seront à réguler avec le groupe, et non pas uniquement par le thérapeute avec le client avec lequel il travaille, au sein du groupe. Donc j'insiste sur le fait qu'il peut y avoir une fonction régulatrice du groupe. La question, c'est comment on va la contenir, la travailler, etc. Une des questions. Alors, je vais donc vous parler maintenant d'une séquence clinique. Donc, c'est une séquence clinique qui a été très difficile pour moi. À un moment donné, je travaille donc avec une personne que je vais appeler Magali, qui est une personne qui a déjà fait beaucoup de travail, qui est donc une personne que j'estime suffisamment, je dirais, solidifiée. Et à ce moment-là, je suis en train de travailler avec
un homme du groupe, qu'on va appeler Francis, et qui lui, plutôt, je dirais, une personnalité schizoïde, très rétro-fléchie, avec très peu d'accès à ses affects, et qui commence à accéder plus à ses affects et à ses émotions. Et donc, dans une séquence, à un moment donné, il souhaite travailler sur sa relation donc, avec Magali, à propos desquelles il a des choses à dire, et notamment des choses sur son mécontentement, etc. Donc moi, j'accompagne Francis, en prenant soin de demander, bien sûr, si, comment Magali peut recevoir ça, elle dit OK, tout ça, etc. Donc je suis suffisamment assuré qu'elle va pouvoir recevoir. Le travail se déroule donc avec Francis, et moi je suis centré plus sur lui, je l'aide à réguler son agressivité, il commence à dire des choses, etc. Donc je suis plutôt moi dans un mouvement, je dirais, positif, d'accueil, d'affect nouveau qu'enfin il ose dire au sein de cette situation groupale. Et à ce moment-là, je ne me rends pas compte que Magali est en train de se dysréguler. Mais se dysréguler, je dirais... ça n'apparaît pas fortement dans le comportement, mais en fait, il y a plusieurs signes comme quoi elle se dysrégule. Et lorsque le travail se termine avec François, elle craque, et là, elle se met donc à lui répondre. Et là, par exemple, si on pense à la mentalisation, j'ai beaucoup aimé l'exposé, elle répond vraiment, je dirais, elle n'a pas cette possibilité à ce moment-là de se mettre à la place d'eux, etc., etc. Et me voilà ici avec une interaction entre deux enfants du groupe. Je suis au milieu et je vous dis qu'à ce moment-là, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Je suis un peu perdu. À ce moment-là, la seule solution que j'ai trouvée, j'appuie sur le bouton pause. Je dis, écoute, on va poser un peu et on va reprendre. Alors, ce qu'il y a... je précise que... donc. Magali a été prise dans une relation avec la mère où elle comblait la perte de deux enfants jumelles nés avant elle et décédés. Donc c'est une fille unique, mais avec deux enfants morts avant. Et le père apparaît comme le troisième enfant dans le système familial. Ça, c'est des éléments qu'on avait déjà travaillés. Peu intervenant, il ne régule pas du tout, très peu, la relation mère-fille. Et elle apparaît toujours, donc elle, comme insatisfaisante et insatisfaite. Quant à Francis... lui, il a vécu toute son enfance dans la domination d'une sœur aînée, qui l'a plus ou moins dominée, qui était très autoritaire avec lui, et cette relation n'étant pas régulée par les parents. Donc je me retrouve avec le frère, si vous voulez, dans le groupe, et la sœur, avec un niveau d'intensité émotionnelle, et avec un groupe, à ce moment-là, médusé. C'est-à-dire, plus personne, voilà, on se demande ce qui va se passer, quoi. Donc j'appuie sur pause... et je suis donc, il y a des affects très puissants qui sont mobilisés, la rage, le désespoir, la peur. Enfin, vraiment, c'est très, très difficile à contenir à ce moment-là. Des sentiments d'injustice, etc., etc. Donc, on fait la pause. Et là, pendant la pause, je souffle. Et je me souviens très bien d'avoir repris mes appuis, etc. Donc, ce que je fais, c'est que je décide de reprendre avec l'ensemble du groupe cette situation. L'ensemble du groupe. Et là, à mon grand, non pas à mon étonnement, mais à ma grande satisfaction, je vois les membres du groupe qui commencent à nommer des choses, donc à Magali, des choses à François, et aussi et surtout des choses à moi. C'est-à-dire, je suis remis en question quant à mon attitude de trop grande de non-protection de Magali, sachant que des membres du groupe avaient observé qu'elle commençait à se déréguler, à se dysréguler. Et donc, François, lui aussi, m'exprime à nouveau son sentiment, paradoxalement, que je ne l'aide pas assez, bien que j'ai été, de mon point de vue, suffisamment présent avec lui. Alors, là, je me dis, bon, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je fais? Change de métier? Pourquoi je fais du groupe? Pourquoi je fais du groupe? Les collègues, certains collègues de changer n'en font plus ou en font moins. Pourquoi je continue à vouloir aller dans cette galère? Et en même temps, je me dis, voilà, ou tu changes de boulot, t'arrêtes de faire du groupe, ou tu essaies de comprendre que le travail de groupe fait ressurgir des micro-champs, que accepte le regard, commence à travailler à accepter le regard des autres membres du groupe concernant certains enjeux où tu te trouves pris
et que tu n'as peut-être pas suffisamment régulé avec le groupe, et prends le temps de réguler pleinement ce genre de situation avec le groupe. Ça, c'est à peu près la réflexion dans ma pause. Et donc, j'ai passé ce temps à réguler cette situation avec le groupe, et j'ai été extrêmement surpris, étonné, positivement, ravi, je dirais, au bout du compte, de voir que les personnes interrogées sur leurs affects, etc., ont été tout à fait capables d'autoréguler la situation, de me dire des choses, qu'à partir du moment où je les acceptais, que je les remettais dans le champ groupal, les choses s'apaisaient, que Magali a pu s'apaiser quand elle a pu me dire que oui, j'avais pas été suffisamment présent auprès d'elle, et que ça reproduisait bien des choses, etc., etc. Et que les autres membres du groupe, en fait, ont pu parler aussi de leur situation de rivalité frère-sœur. Donc, en fait, on a passé une heure et demie à travailler une situation groupale et à réguler une situation groupale concernant, au départ, trois personnes, mais qui concernait tout le monde. Et donc, au fond, ça m'a assuré qu'au sein d'un groupe, il y a une compétence aussi affective, socio-affective, fondamentale, et que pour autant qu'on la laisse émerger, qu'on la regarde, qu'on la sollicite, ça va être extrêmement aidant pour travailler certaines situations. Alors du coup, je me suis mis à chercher ce que pourrait être une posture, ma posture, je suis vraiment en recherche, hein, je n'ai pas de choses. Bon, par exemple, il m'arrive encore de faire des séances strictement individuelles en groupe. Je ne fais pas toutes les séances avec le groupe. Mais progressivement, je me suis dit qu'il était indispensable, si on travaille en groupe, de favoriser au moins autant le développement groupal des compétences au sein du groupe. Et j'ai été très intéressé d'entendre le travail sur la mentalisation, parce que je me suis dit, j'ai revu la séquence dont je vous ai parlé tout à l'heure, je me suis dit que, en fait, les personnes du groupe travaillaient leur mentalisation de la situation et aidaient les deux autres personnes et moi-même à mieux mentaliser la situation. Et donc, j'avais un groupe qui devenait créateur, si vous voulez. Et donc, chaque participant, finalement, faisait un travail de mentalisation. Et donc, pour moi, il est devenu plus indispensable de favoriser le développement groupal par une sollicitation active de ses membres en cours de travail thérapeutique. J'insiste là-dessus, c'est-à-dire en cours de travail, c'est-à-dire que par exemple maintenant, quand je travaille avec quelqu'un, à certains moments du processus, je regarde le groupe, etc., puis je vois des mouvements, et puis je sollicite quelqu'un, je dis « qu'est-ce que vous ressentez à ce moment, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe pour vous, qu'est-ce qui se passe ?» Et à ce moment-là, des moments donnés, une personne ou une autre personne vient participer au travail avec la personne et avec moi. Autrement dit, à ne voir que la dimension individuelle ou inter-individuelle comme je peux travailler en thérapie individuelle, il me semble que nous pourrions négliger une dimension groupale avec ses effets potentiellement positifs ou négatifs. Et donc, du coup, j'ai reconstruit deux hypothèses. Chaque mouvement individuel au sein du groupe peut exprimer une problématique sous-jacente du groupe, qui va être présente dans le groupe et qui va mériter d'être soulevée pour être travaillée avec l'ensemble du groupe. Et chaque mouvement de groupe peut aussi exprimer une ou des problématiques individuelles au sein du groupe. Ça, ce sont des hypothèses. Concrètement, du coup, j'ai modifié mon dispositif. Donc maintenant, je travaille avec un groupe de 7, j'étais avec un groupe parfois avec des entrées en cours d'année, etc. Maintenant, quand les gens s'engagent, ils s'engagent pour une année pleine. Donc j'ai une permanence du groupe. On peut construire cette communauté thérapeutique plus aisément. Une séance toutes les deux ou trois semaines, donc vous voyez, c'est quand même assez régulier, sont des séances de 8 heures. Donc je travaille avec eux le vendredi soir et le samedi matin. Et évidemment, engagement rigoureux sur les présences. En ouverture de groupe, je ne fais pas d'exercice et tout ça. Je favorise un peu l'indifférence créatrice dans le premier travail, le premier temps, avec un travail d'éveil, sentir ce que chacun vit individuellement. Et aussi, maintenant, je pose beaucoup plus la question, comment vous sentez-vous dans ce groupe? Qu'est-ce que vous voyez qui se passe dans ce groupe? Qu'est-ce qui s'est passé la fois passée? Qu'est-ce qui reste d'inachevé par rapport à notre façon de vivre ensemble, etc. Et donc, je me préoccupe à ce moment-là du groupe à part entière. C'est le « nous ». Le « nous », travail sur le « nous ». Ensuite, progressivement, une fois que le groupe, en cours de début de séance, est devenu cette matrice, ce que Néry appelle cette matrice contenante, on a commencé à travailler sur ce qui se vit au sein du groupe, on peut commencer les travaux individuels. Et ici, je garde toujours maintenant l'hypothèse qu'à un moment du processus, tel ou tel membre du groupe, ou peut-être même l'ensemble du groupe, va pouvoir être sollicité. Toute la question que je me pose maintenant, que j'essaye d'affiner, c'est comment solliciter ? À quel moment ? Est-ce que c'est juste parce que je ne m'en sors pas, que j'ai un contre-transfert massif et que voilà, je vais aller faire une déflexion pour aller travailler avec le groupe ? Est-ce que c'est parce que j'ai observé quelque chose au sein du groupe qui peut être pertinent ? Est-ce que c'est parce que quelqu'un a manifesté quelque chose qui pourrait éventuellement nourrir le processus ? Donc, il y a différents types de mobilisation possibles. Alors, selon les phases de travail, alors je reviens au travail en PGRO. Donc, dans la phase de reproduction, je peux à un moment donné solliciter le groupe sur « qu'observez-vous » d'explicite. Je pense par exemple quand Christine disait que les membres du groupe ont nommé quelque chose à Pierre de son processus, par exemple. Hein. Voilà, « qu'observez-vous » « que sentez-vous » Là, on vise à essayer de laisser émerger l'implicite, l'intolérable, le somato-affectif, etc. Et parfois, je sollicite aussi, et si quelqu'un représentait cette situation dont nous parlons ? Et là, je fais faire un travail plus postural. C'est-à-dire des personnes, des fois, vont travailler à faire une sculpture de groupe, quelqu'un va prendre une position corporelle, ben, moi, je vois cette famille dont on parle comme ci, comme ça, etc. Et donc, c'est un travail du corps, là. Hein, c'est pas forcément les mots à ce moment-là. Pour essayer de capter un peu toutes les résonances, 5 minutes, ok, toutes les résonances du groupe. Là, par exemple, j'ai une personne dans ce groupe qui est extrêmement, je dirais, bon, qui a été une personne qui a eu une trajectoire de vie extrêmement difficile, avec une mère schizophrène. Elle a été, pour vous dire, elle a été dans son enfance attachée des fois pendant des heures par sa mère, vous voyez, avec les poings liés, les jambes bloquées et tout ça. Bon, quand tout ça a ressurgi, bon. Elle a vécu une situation extrêmement traumatisante parce qu'elle sortait de l'école, sa petite sœur est partie en courant pour traverser la rue, elle a été écrasée devant elle, vous voyez. Bon. Donc une personne qui a vécu des choses vraiment très très difficiles et qui, lorsqu'on travaillait avec elle, à des moments donnés se perdait le contact et le moyen qu'elle avait à un moment donné, c'est de se raccrocher à un arbre. Bon, à l'institut, là-haut, au troisième étage, on voit les feuillages et à un moment donné, son système de soutien, c'était l'arbre. Et à un moment donné, si vous voulez, progressivement, j'ai sollicité le groupe, dire, ben, comment on pourrait aider à ce moment-là Cathy à fonctionner, etc. Et elle a eu des propositions du groupe qui sont venues du groupe. Le groupe est devenu proposant et elle a pu progressivement passer de ce système de soutien à revenir dans le contact avec les membres du groupe et progressivement pouvoir s'appuyer sur certaines femmes du groupe. Voilà. Et là, ça a fait tout un travail de transformation des objets internes, c'est-à-dire que jusqu'alors, pour elle, aucun humain ne pouvait à ce moment-là être un soutien interne suffisant pour elle. Et là, progressivement, c'est venu de la communauté créatrice, si vous voulez. Hein. Dans la phase de reconnaissance, ben là aussi, à certains moments, je mobilise les capacités de rêverie, d'imaginaire, de pensée des personnes du groupe. Moi, je propose des pistes, je fais mon travail herméneutique, etc. Puis à certains moments, je dis, ben, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sentent autre chose, qui voient autre chose, etc. Et puis il y a des fois une nourriture complémentaire qui vient, et parfois même, il faut bien le dire, plus pertinente que la mienne. Ça arrive. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une ouverture de sens vraiment extrêmement nouvelle et positive qui vient nourrir le processus et que voilà, qui nourrit le travail à ce moment-là. Parfois aussi, je sollicite un peu plus d'interaction. C'est qu'auriez-vous envie de dire à X à ce moment ? Quels seraient les mots qui ouvriraient quelque chose de nouveau, etc. Hein, donc, je vais vraiment faire un travail dans cette phase de reconnaissance. Enfin, dans la phase de réparation, bon, évidemment, je pense qu'à partir du moment où on a travaillé pour que le groupe devienne une matrice plus contenante et que je prête plus d'attention à ça dans le processus, c'est pour moi déjà réparateur parce que ça va permettre à tous ces affects extrêmement enfouis de pouvoir se déployer un peu plus. Et donc déjà ça, c'est positif. Et je pense par exemple à nouveau à Cathy, par exemple, c'est pour elle, ça a été très important quand le groupe est devenu plus contenant et qu'on a fait tout ce travail-là, etc. Bah, elle a commencé à pouvoir évoquer toutes ces situations extrêmement douloureuses qu'elle avait pu vivre. Ensuite, il y a aussi parfois En fin de séance, par exemple, je sollicite des membres du groupe pour dire, ben voilà, qu'est-ce que vous imaginez qui pourrait être positif, qui pourrait être réparateur, bon pour cette personne à ce moment-là, etc. Et alors, il y a des propositions qui viennent ou qui ne viennent pas, mais souvent, il y en a qui viennent. Et puis là, on co-construit ça ensemble, on vérifie. Moi, mon rôle, au fond, c'est de devenir régulateur un peu des propositions qui viennent du groupe et chez le client. Et puis, il y a quelque chose qui se met en place, qui aboutit parfois à des très, très belles, des très beaux moments de vie groupale où la personne va pouvoir accepter de se faire toucher, de se faire entourer doucement, etc. Mais ce n'est pas une proposition du thérapeute. Ça émerge du groupe et c'est validé par le client ou la cliente à ce moment-là. Et donc, pour moi, c'est très différent. Parce que ce genre de choses, bon, ben, avant que je fasse de la PGRO, je pouvais déjà le faire. Mais c'était un peu des propositions. Donc, en fait, on est soumis à toutes les, je dirais, les introjections possibles des membres du groupe qui vont dire « Ah ben, le thérapeute a demandé de faire ça, donc ok, on va le faire, etc. » Tandis que là, je passe par la case « sensibilité au sein du groupe » pour que ces propositions soient plus, je dirais, subtiles, vivantes et partent, non pas d'une intention du thérapeute, mais partent de ce qui est vécu au sein du groupe. Alors, je termine, je crois que j'ai plus beaucoup de temps. 2-3 minutes. Donc les grands aménagements que je vois du fait qu'ils sont en modification dans ma pratique, c'est bon, bah, de dire la situation de groupe suscite des reproductions autour d'épisodes de contact toxiques vécus en situation groupale dont le groupe de thérapie va devenir porteur et réactivateur. Le travail d'analyse dans certaines situations me paraît plus pertinent en le prenant au niveau des interrelations ou du fond groupal plutôt qu'uniquement dans un dialogue avec moi comme psychothérapeute. Ça n'invalide pas du tout le potentiel de dialogue du psychothérapeute, mais à ce moment-là, je pourrais faire de la thérapie individuelle. Si les gens sont en groupe, je pense qu'il faut, il faut le rendre plus créateur. Et il me semble que ces affects mobilisés en groupe sont porteurs de sens pour le groupe, pour chacun, et parfois renvoient des configurations familiales ou groupales, ou des dysfonctionnements ou entraver le développement du self. Je ne redis pas, parce que j'ai dit tout à l'heure, humiliation, honte, non-protection, les systèmes de confusion, les situations d'incestualité. Donc, j'accorde une plus grande attention au mouvement affectif au sein du groupe. Je sollicite le groupe je commente les processus groupaux avec le groupe. Donc, j'offre des commentaires sur les processus de groupe et on partage ça en groupe. Bon, ben je pense que... Oui, c'est ça. J'insiste sur le dernier point, c'est accepter aussi progressivement à certains moments les regards de membres du groupe sur mes zones, que j'appelle mes zones de corruption, mes insuffisances, etc. C'est pas tout le temps, mais c'est assez fréquent quand même qu'à un moment donné, là, j'ai pas compris pourquoi il s'est passé ça, etc. J'ai trouvé que, etc. On commente, on regarde, et puis parfois, ça donne des choses très intéressantes. Ça veut dire que ben, je reçois des feedbacks. Au fond, j'ai... Dans certaines situations, je dirais que j'ai mes 4 ou 5 superviseurs qui sont là en live et qui me regardent travailler. Et si des fois, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné selon eux, c'est parfois très pertinent. Par contre, il faut insister, et ça, c'est une réflexion que je suis en train de mener maintenant, mais ça, elle n'est pas aboutie, c'est qu'il faut insister sur... Bah, par exemple, je ne conseillerais pas forcément à des débutants de travailler comme ça, parce que ça peut donner des situations un peu explosives. Ça peut de faire que des blessures peuvent venir... d'un membre du groupe si je le sollicite et puis ça peut taper en plein dans le trauma et amener le client à être encore plus dysrégulé. Donc il faut faire ce travail-là avec un groupe qu'on a travaillé à ce qu'il devienne une communauté contenante. Progressivement, il faut pouvoir des fois bloquer une interaction parce qu'on estime qu'elle n'est pas pertinente à ce moment-là pour le client en train de travailler, le nommer, pouvoir revenir dessus après, etc. Et je m'aperçois que progressivement, les personnes, finalement, font cet apprentissage d'accepter aussi les frustrations. Des fois, ils ont envie de dire quelque chose, et puis finalement, c'est pas pris dans le sens du travail, etc. Donc, il faut le réguler. Donc, il y a certainement aussi des points, des risques, des points des choses très, à faire très, très attention à certains, à cette pratique. Voilà. Donc, je termine en disant que, finalement, le mot « avec » je suis en train de réfléchir au concept d'inclusion, hein, c'est-à-dire travail d'inclusion du groupe dans le travail thérapeutique de telle ou telle ou telle personne. Et donc, au lieu de « au sein de », d'accord ? Vous voyez ? Avec le groupe, donc en mobilisant les forces vives du groupe. Alors, pour terminer, ben voilà, vous pouvez, j'ai écrit donc un article dans la revue commune du collège et de la SFG suite au colloque de 2013 qui s'appelle Gestalt-thérapie du lien avec le groupe. Je pense que vous pouvez lire aussi avec profit l'article que Jean-François, dans la même revue, a écrit qui s'appelle « Réguler un groupe, un enjeu majeur ». Et enfin, il y a un article aussi d'une collègue française, Chantal Masquelier, qui a écrit « En groupe, de groupe, au cœur du groupe » et qui est assez proche, qui mène une réflexion assez proche de celle que je viens de partager avec vous. Je vous remercie.
Merci pour vos deux belles présentations. Alors, on vous laisse quelques minutes pour échanger entre vous avant de passer à la période de questions.
Je ne vais pas ouvrir celle-là.
C'était assez clair.
Oh, c'était parfait. Oh, ouais. Ah. Il n'y a plus de verre.
Merci. Super. Merci. Ce sont tellement bien vos présentations, tellement claires.
Ah,
tellement clair les deux, c'est vraiment passionnant. Vraiment, c'est très le fun. Avec des beaux liens que j'ai. Vous pouvez mettre les photos au sol.
Oui,
c'est pour les photos.
Ah, OK.
OK. Merci vraiment.
OK, merci. C'est vraiment
intéressant.
C'est clair et net.
Oui, ouais, c'était intéressant.
Ça a bien passé quand même, mon papillage. Hein,
On a démarré un petit peu en retard.
Peut-être un petit 5 minutes, mais c'est pas grave. Il y aura juste moins de temps pour poser des questions. Moi, j'aime bien mieux t'entendre que d'entendre mes questions.
Moi, j'aime bien avoir des questions parce que ça fait... Tu sais, ça... Ce que j'aime bien, c'est quand les gens, des fois, en posant une question, ils peuvent mettre le point sur un endroit que tu n'as pas vu.
Oui,
donc, ça t'aide après
à cheminer plus. Ah oui, surtout toi qui es en plein développement
sur mon
frère.
J'essaye de creuser ce truc-là. J'aimerais bien faire quelque chose de plus installé,
Ouais, je vais continuer. Surtout que toute l'année a été vraiment très productive. Toute l'année, les gens ont été satisfaits.
Ouais.
Ils sont devenus plus actifs dans le groupe, ils sont devenus plus concernés par le travail des autres.
En as-tu un en perspective, là?
Le groupe?
Oui.
Ben, c'est, là, si tu veux, en juin, c'est terminé.
Ouais.
Il y a 5 personnes qui restent.
Okay.
Il y a 2 nouvelles personnes qui entrent. Donc,
ah,
on est reparti pour un an.
C'est reparti pour un an.
J'ai 7 personnes.
Mais t'as envoyé à quoi 8 à un moment donné?
Non, non, je veux 7.
Okay.
Je limite à 7 parce que 8, c'est trop. Parce que j'ai 8 heures.
Okay.
Et si tu veux consacrer du temps au groupe, il faut en début de processus presque 3 quarts d'heure et en fin de processus il faut du temps.
Okay.
Et entre deux, tu as les séquences
individuelles. Tu leur donnes une heure chacun.
Voilà, ils ont chacun 3 quarts d'heure individuelle.
Ah bon, okay.
Ouais, ouais. Et okay. Tout le reste du temps, c'est le travail groupal.
Ah ok, ouais, je comprends. Les 15 minutes.
C'est ça. Ils ont, ils les arrêtent plus.
Mais ouais, c'est ça. Vous êtes combien à avoir fondé, changé? Il y a Pierre, Van.
Alors, il y a Pierre, les fondateurs initiaux, c'est moi,
Pierre,
et Didier Juston qui n'est pas là.
Ok.
Didier Juston. Il y a une gestaltiste aussi, qui est superviseur du CIG aussi.
Ok.
Et qui a aussi une formation psychanalytique.
Ok.
On va passer maintenant à la période de questions.
Allez, je vais ouvrir. Moi, je suis évidemment bien proche de la façon dont tu conçois les choses, Yves, à bien des égards. Si on conçoit le travail avec le groupe en utilisant plus pleinement la dimension groupale, il me semble, et peut-être que tu le fais, mais tu ne le dis pas, et ça m'intéresse de savoir si tu le fais, qu'il faudrait expliciter avec le groupe comment on va se servir du groupe et de quelle manière on va l'associer au travail. Je ne sais pas si tu fais ça. Et... parce que sinon, si le processus reste implicite, ça me semble embêtant.
Mais je suis d'accord avec toi. Là, tu vois, le changement qui s'est passé avec le groupe dont je parle, donc ça remonte maintenant à 2 ans et demi, presque 3 ans, est arrivé dans un moment de crise du groupe, qui a été un moment aussi de crise, je dirais, dans ma façon de travailler. Et progressivement, je fais ce travail dont tu parles. C'est ce que j'appelle commenter les processus. Et effectivement, quand je reçois une personne qui veut intégrer ce groupe, je fais un entretien individuel approfondi pour parler du groupe, de comment on va travailler, des exigences qu'il y a, etc., etc., etc. Ça ne veut pas dire que les personnes vont pouvoir entrer là-dedans tout de suite. Après, il va y avoir bien du travail de régulation qui va se faire en cours de route. Mais c'est vrai que, oui, il y a un travail de déplier l'implicite et que ce n'est pas un modèle qui peut se passer comme ça sans qu'on en dise rien. Hein? Bien sûr, bien sûr.
Moi, je vous remercie tous les deux. Parce que j'ai trouvé ça très complet. Je voulais juste te poser la question, Yves, c'était une suggestion, de savoir si... dans l'éventualité où tu co-animerais avec quelqu'un, est-ce que ta préoccupation sur une personne et de l'autre, de pouvoir avoir un regard plus sur le groupe, serait une façon de résoudre cette difficulté d'être à la fois sur une personne et sur le reste du groupe?
Alors, j'ai co-animé avec au moins 5 personnes. Déjà, depuis que je fais des groupes, ça fait 25 ans que je fais des groupes. Donc, j'ai souvent co-animé. Et, comment dire ça? avec des expériences très positives. D'ailleurs, certaines personnes avec qui j'ai co-animé sont dans la salle. J'en suis venu à aujourd'hui. Je dis bien aujourd'hui, ça ne veut pas dire que je ne serais pas porté du tout à re-co-animer. Aujourd'hui, j'en suis venu plutôt à faire ce,
cheminer à faire ce travail de clarification, d'intégration de différentes choses dans ma pratique de groupe, parce que pour le moment, j'ai besoin de faire ça tout seul. Voilà. Donc, je le travaille au plan réflexif, je le travaille en supervision. Voilà. Mais pour le moment, je suis pas mûr. J'ai besoin de cheminer un peu seul dans cette manière de concevoir mon travail. Voilà ce que je dirais. Mais sinon, je pense que c'est très pertinent, parce que sinon, ça fait un peu... C'est vrai que ça pourrait donner un peu l'impression d'un peu de toute puissance. Je m'occupe du groupe, des frères, des sœurs, des interactions et de ceci. Mais il faut comprendre et saisir que... Comment dire ? Moi, j'ai souvent pensé que qu'une personne grandit, un enfant grandit aussi, quand il est reconnu activement dans ce qu'il peut donner aussi dans la famille. Et là, je suis très touché de voir des personnes au sein du groupe qui grandissent en participant au processus de travail d'autres personnes du groupe. Ça me paraît très important dans le développement des personnes, que les personnes se sentent actives, créatrices, etc., participantes. C'est vraiment quelque chose de pour moi, de très, très important. Donc, pour l'instant, c'est ça que... pour l'instant, je travaille encore tout seul, probablement. Je pense qu'il y avait... C'est Jeanne qui voulait venir travailler un peu avec moi. Hein, Jeanne, où est-ce qu'elle est? Elle m'a sollicité, j'ai résisté un petit peu, Jeanne, mais bon, ça se fera certainement. Oui.
Deux questions, en fait. Par rapport à la position de thérapeute individuel et thérapeute de groupe en même temps, comment est-ce que vous positionnez chaque fois avec la même personne dans le cadre du groupe et dans le cadre individuel? Et la deuxième, c'est pourquoi vous avez entrepris cette démarche de mettre les gens dans les deux? Ça m'intéresse.
Ouais, tu soulèves une question vraiment importante parce que j'ai réfléchi un peu à ça. Je m'interroge moi-même sur les écueils possibles d'être à la fois thérapeute de groupe, du groupe et individuel, parce que ma position actuelle, ce serait de dire que whatever comes up, tu sais, je veux dire, si ça suscite des enjeux, on les travaillera. Pourquoi je les ai mis ensemble? La deuxième question, bien, moi, je trouve qu'en groupe, j'évolue beaucoup. Je me développe beaucoup dans un groupe. Et ça me fascine, le groupe. Puis pourquoi j'ai... Pourquoi ça a été mes clients en individuel? C'est parce qu'ils étaient disponibles. Je veux dire, moi, au moment où j'ai constitué ce premier groupe, j'avais 9 ou 10 clients en thérapie à toutes les semaines. Puis je l'ai demandé à mes clients un après l'autre. Puis j'ai arrêté à 8 parce qu'ils ont tous dit oui. Fait que c'était bien facile de constituer un groupe. J'en ai profité. Fait que, ouais. Mais... pour l'instant, moi, j'ai vu que du bon qui aurait sorti de ça. J'ai un collègue à Montréal, Christian Depeau, qui fait aussi, qui voit aussi ses clients individuels en groupe. Puis j'en ai parlé avec lui de ça, de ta préoccupation, de ton questionnement. Puis lui, il dit, c'est vrai que ça a peut-être des mauvais côtés, mais pour tous les bons côtés que ça apporte, ça vaut la peine.
Oui. Voilà, alors, ma question, elle te concerne, toi, Yves, mais c'est un peu la suite. Voilà, bon, pour avoir aussi co-animé à certains moments avec toi, je voulais savoir comment tu vivais le fait maintenant, si j'ai bien compris, de ne plus avoir les clients avec lesquels tu travailles en groupe, en individuel. Qu'est-ce que ça provoque ou pas? Enfin, voilà, parce que moi, j'ai aussi un groupe avec mes clients. Donc, à l'alternance séance individuelle, séance de groupe, où je me dis, ben voilà, on peut retravailler ce qui s'est mal passé, on le retravaille en individuel, et puis après, qu'est-ce qu'on en fait de nouveau au sein du groupe. Mais dans cette expérience-là que tu nous as décrite, où tu ne vois plus les gens en individuel, voilà, que tu puisses nous parler de ça, sur la différence.
C'est quand même bien les colloques, parce que les gens vous posent des questions à laquelle vous n'avez pas encore réfléchi. Ça veut dire que ça va me faire cheminer plus. Là, comme ça, ça me fait prendre conscience, si tu veux, Marie-Laure, que finalement, je crois que ce choix que j'ai fait, dont peut-être une partie est un peu pas forcément raisonnable au sens raisonné, il me semble que si je travaille qu'avec des personnes que je n'ai pas en individuel, ça m'oblige à travailler plus la dynamique de groupe et le groupe. Ça clarifie le modèle pour moi, c'est-à-dire que ça va m'aider à avancer plus dans le modèle de travail avec le groupe. Et je pensais tout à l'heure que le groupe devient une sorte, pour les personnes, devient une sorte d'objet qui peut à certains moments être un objet interne persécuteur ou bon, etc. Mais si on arrive progressivement à créer cette communauté, petit à petit, le groupe devient une sorte d'objet interne positif pour les personnes. Et ça fait référence, par exemple, je pense à plusieurs personnes ont nommé qu'à certains moments, par exemple, elles pensaient au groupe. On va voir le groupe. C'est pas « je pense à toi, le psychothérapeute », c'est « je pense au groupe, je pense qu'on va se retrouver ». C'est comme si on pensait à la famille, tu vois, une famille qui devient meilleure parce qu'on régule des choses difficiles, on régule des affects négatifs, on régule des imperfections, etc. Et du coup, tout ça fait que le groupe devient quelque chose d'intériorisable, tu vois. Et alors que si... Pour moi, aujourd'hui, si je continue à prendre des personnes en thérapie individuelle au sein des groupes, il me semble que c'est... Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, hein, je pense que c'est un autre modèle et j'apprécie beaucoup le travail que... D'abord, Christine dit elle fait des ateliers. J'ai trouvé ça intéressant. Des ateliers qui ne sont pas sur une durée longue. Elle fait des ateliers, je ne sais plus, 8 semaines, 5 jours, vous voyez, avec ses clients. Moi, ce n'est pas pareil, c'est un groupe continu sur un long cours. C'est le groupe qui devient le support du travail thérapeutique. Pour moi, plus que le thérapeute, je dirais. Voilà. Voilà ce que je pense momentanément sur la question.
Alors moi, s'ouvre encore un nouveau chantier. Décidément, je trouve que ce colloque, c'est comment pourrait-on faire le passage de toute cette recherche par rapport à un groupe de supervision. Je serais assez passionnée qui il y en a d'autres voilà, dans la salle qui fassent ce travail de recherche sur comment passer peut-être de cette situation individuelle à cette situation plus coupable. En tout cas, moi, je sens que c'est ce vers quoi je tends. Même parce que ça me donne un peu la nostalgie d'animer un groupe de thérapie. Mais je trouvais ça intéressant de le penser théoriquement.
T'attends une réponse?
Attends, tu dis que c'est un intérêt. Moi, je n'y ai pas pensé comme ça. Je crois quand même, tout de suite ce qui me vient, hein, deux choses. Un groupe dans lequel, moi j'ai, par exemple j'ai eu une difficulté ces deux dernières années, dans un groupe institutionnel, où j'étais en position, je dirais, d'occuper une place, avec un statut et un pouvoir. Et j'ai été très en difficulté dans ce groupe et ça a cheminé. Bon, on a quand même réussi à réguler et à transformer. Mais autrement dit, si tu es dans un groupe où tu as des enjeux, je dirais, de rivalité, c'est pas pareil que si tu es dans un groupe de thérapie. Pour moi, c'est pas le même genre de groupe. Bien sûr, tous les groupes obéissent à des règles, je dirais, telles que... Enfin, c'est toujours des systèmes qu'on peut comprendre avec la théorie léwinienne et tout ça. Mais malgré tout, les statuts et les buts assignés au groupe, c'est très important. Et comme tu vas pouvoir faire cette communauté créatrice au sein d'un groupe de thérapie, peut-être plus aisément, je dirais, a priori, il faudrait y réfléchir, hein, que dans un groupe de supervision. Encore que dans un groupe de supervision, bon, ça fonctionne aussi quand même plutôt bien. Mais par contre, dans un groupe institutionnel, ce que j'appelle un groupe institutionnel, c'est beaucoup plus complexe. Beaucoup plus complexe. Et là, tu as des enjeux qui sont des enjeux pouvoir, etc., qui reviennent.
Michel Marois, je voudrais remercier Yves et Christine d'avoir touché ce sujet-là. Et ce que je m'aperçois en vous écoutant, c'est toute l'ampleur du travail qui reste à faire. Je pense à toute la réflexion qui a déjà débuté, et qui a déjà débuté même chez ailleurs, sur le travail de groupe versus, n'oublions pas, la PGRO. Et moi, c'est mes deux chevals de bataille actuellement. Je travaille dans le réseau au Québec. Et il y a des impératifs pour travailler d'une façon différente. Et je pense que le groupe est d'une avenue très intéressante pour, tu l'as bien souligné, je pense, pour travailler certaines problématiques. C'est facile de travailler, par exemple, des problématiques relationnelles dans un groupe où on est en train d'observer des choses qui sont en train de se passer, n'est-ce pas? Mais moi, ce que je voulais nommer, c'est que je suis en deuxième année de troisième cycle. Au CIG, j'ai mon rapport de synthèse d'affaires. Et c'est sûr que je veux marier les deux positions. Et là, je m'aperçois qu'il y a eu des réflexions plus avancées. Il y a déjà des réflexions qui sont entamées. Et j'aimerais bien les poursuivre et voir un peu qu'on puisse co-construire peut-être ensemble, Yves. Et moi, le goût que j'avais, j'en ai parlé avec Alain Mercier, qui en fait beaucoup de groupes aussi de notre côté. Là, je pense qu'il y a peut-être des pairages à faire. Mais vous parliez de qu'est-ce qu'on pourrait faire, mais je pense qu'il y en a, il y a des belles choses qui ont été développées au Québec, je pense au niveau des groupes, versus la PGRO. Moi, ce que je voulais faire, c'était vraiment faire un peu le mariage avec la littérature, mais de voir je ne veux pas faire un sacrilège, mais manualiser. Quand j'entends manualiser, ça ne veut pas dire d'enlever tout l'expérientiel et l'aspect spontanéité, c'est plutôt de dire comment on va travailler la réparation dans un groupe. Comment on peut le faire si moi, je n'en fais pas d'intervention individuelle? Comment je vais travailler? Quand est-ce que je vais voir la réparation? Quel signe ça va me donner qu'il y a des réparations dans le groupe? Et comment je peux favoriser ça dans le groupe? Un peu comme tu le dis, le groupe devienne en soi thérapeutique. En tout cas, c'est toutes des questions qui m'interpellent. Et un des premiers mouvements que je voulais peut-être faire, c'est regarder... voir un peu quelqu'un qui a écrit beaucoup sur le groupe, qui est connu, Yalom, aux États-Unis, je ne sais pas, puis de regarder un peu, faire le parallèle entre Yalom et la PGRO et dire comment on pourrait greffer l'un à l'autre, mais d'y aller sur quelque chose qui serait un peu structuré. C'est peut-être moi qui ai ce besoin-là aussi. Peut-être qu'il n'y a personne d'autre qui s'intéresse ici, finalement. Mais en tout cas, j'aurais fait mon travail de synthèse.
Ce que j'entends...
Mais en tout cas, c'était un peu une réflexion que je partageais avec vous.
Ce que j'entends, c'est comment on peut aussi faire groupe au sens de partager des réflexions et des moments de recherche et partager nos... Voilà. Moi, j'y suis favorable parce que là, au stade où j'en suis maintenant, je me sens un petit peu tout seul. Autant j'ai eu besoin d'une phase comme ça où j'ai voulu butiner un peu. Maintenant, je me dis que partager, échanger avec d'autres et tout ça pourrait être très, très, très intéressant et très stimulant pour moi aussi. Je ne vais pas continuer à travailler tout seul sur le groupe. Ça fait un peu bizarre.
Merci.
Donc, je te suis et on peut se rejoindre.
Bien. Je t'en prie. Vas-y.
Bien. Alors, nous sommes prêts à aller à la pause pour 30 minutes et puis revenir pour la dernière conférence de Lynn Girard.